Paso doble.
Paso doble.
Mercredi, cinéma.
Bonjour Hicham Lasri.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, romancier et même auteur de bande dessinée. Et aujourd'hui sort votre dernier film en France, The Sea is Behind. Un drôle de titre en anglais pour un film marocain. Ça renvoie à quoi cette citation ? La mer est derrière nous, je suppose ?
Et derrière vous. En fait, ça renvoie à Tariq ibn Ziyad qui, pendant la conquête d'Andalousie, en fait, il se retrouve avec ses soldats de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire sur la terre espagnole. Il a réalisé que ses soldats avaient peur et le seul moyen qu'il a trouvé pour leur donner à la fois du courage et les mettre face à leurs propres responsabilités, c'est qu'il a cramé toutes les barques et il a en fait fait un grand discours très célèbre, mythique. Littéralement, il dit en fait, la mer est derrière vous, l'ennemi est face à vous et c'est à vous de vous débrouiller en fait, quelque part.
Tariq ibn Ziyad, le stratège militaire de l'armée Omeyyade, le héros berbère des conquêtes arabes, l'un des principaux acteurs de la conquête islamique de la péninsule ibérique, vous venez de le dire, Hicham Lasri, donc Tariq, l'archi-héros, et pourtant, dans votre film, le personnage de Tariq, c'est l'opposé, un anti-héros, un homme broyé, rejeté, un troubadour qui se grime en femme pour danser dans des fêtes marocaines et qui se fait traiter de tous les noms, on devine pourquoi. Alors, pourquoi déjà passer de Tariq ibn Ziyad, le grand héros, la référence des Arabes qui sont toujours nostalgiques de cet âge d'or, des conquêtes, à quelqu'un qui est complètement broyé par la société arabe d'aujourd'hui ?
En fait, ce qui m'a intéressé, c'est sans être dans une description, on va dire, sociale ou même politique, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer en fait l'échec des sociétés arabes, d'une certaine manière, à travers ce personnage d'anti-héros, en fait, de presque un personnage des années 70, un peu loser sur les bords, qui n'a pas de place, en fait, je pense que c'est ça. Ça pose la question de la place des individus dans la société arabe, le confort qu'on leur a donné, l'éducation qu'on leur a pas accordée, etc., etc. Et ce personnage-là, il a un drame. Ce drame-là, c'est de ne jamais avoir été un homme au sens
machiste du terme.
Et puis en fait on joue un petit peu sur le flou, le fait qu'il se grime en femme pour danser pendant les fêtes du mariage, les dits, ce qu'on appelle les dits, qui n'existent plus maintenant.
Sans être homosexuel, pour autant, on peut le dire.
Absolument, hein. Absolument. C'est-à-dire, en fait, c'est ce flou-là, en fait. Ce personnage, il est flou parce que toutes les descriptions autour de lui ne sont pas claires, en fait. C'est-à-dire, la différence entre être un homme et ne pas avoir de courage et être un homme et être homosexuel et ne pas être homosexuel, être travesti parce que c'est son métier, etc. Donc, ça joue sur ces flous-là pour donner un personnage qui aussi, en fait, caché dans cette sorte de peur, en fait, de s'exprimer, d'être, d'exister. Donc, voilà, c'est une sorte d'ombre rampante pendant tout le film parce qu'il ne ressent plus rien. Il a perdu tout ce qu'il a, sa famille, sa femme, ses biens, etc. Il n'a pas bougé, en fait. Il a accepté. Et à partir de là, en fait, le film aussi, en fait, même la forme du film, le fait d'utiliser le noir et blanc, le fait d'avoir codé d'éclats de couleurs de temps à autre, c'est parce qu'on parle d'un monde où il n'y a pas de sentiments, il n'y a plus d'émotions, il n'y a que de la violence, en fait. C'est un monde de violence. Et lui, il n'a pas la force d'affronter cette société-là, donc il subit.
Alors, il n'est pas seulement marginal, votre Tariq, Hicham Lasri, il est aussi hors temps, parce que, voilà, il fait un métier qui n'existe plus, et pourtant, c'est un métier qui a dû exister. Son père lui-même, qui est un troubadour à sa manière, et qui a, lui, un carriole porté par un cheval, son cheval commence à se faire vieux, et c'est donc la fin de son métier, de son époque. Pourquoi jouer, justement, avec ces gens qui, on a l'impression qui vient d'une autre époque et que vous montrez dans un Maroc qu'on devine être le Maroc d'aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait précisé.
C'est volontaire. Je sais pas. En fait, en tant que cinéaste, on va dire du sud ou marocain, je déteste ces dénominations, mais bon, on va jouer avec en attendant de trouver autre chose. On a toujours l'impression qu'on attend qu'on fasse que du cinéma social, un cinéma utilitaire qui permet de dire, OK, on explique des choses par rapport à nos sociétés et tout ça. Or, moi, je suis un enfant de Mad Max, de Terminator et de Predator, des choses comme ça. C'est ça qui m'interpelle. C'est-à-dire, c'est le langage du cinéma. C'est-à-dire, il faut partir de quelque part. Il faut appartenir, en fait, à une culture et la comprendre et la digérer. Et puis jouer avec ça, donner même un deuxième degré d'ironie par rapport à cette société. Donc je voulais raconter l'histoire de ce refroidissement qu'on subit au Maroc. C'est-à-dire, c'est très étrange. Il n'y a pas longtemps, il y avait des lynchages d'homosexuels à Fès, par exemple. Alors qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était quelque chose de totalement bon enfant. Voir un homme habillé, grimé en femme, danser sur une carriole parce qu'il faut ramener la dot à la mariée, c'était bon enfant, tout le monde suivait, tout le monde n'était pas gêné. Et comment actuellement, c'est quelque chose qui est presque impossible à voir dans les rues de Casablanca. Je voulais en fait jouer avec ces temporalités-là et aussi donner en fait une ampleur différente en fait, ne pas être que dans ce constat social. C'est pas le plus intéressant. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le langage du cinéma, c'est le côté baroque du film, le côté un peu Fellinien, presque ramener des choses, un peu des monstruosités, et puis essayer de tirer en fait une forme de poésie de ça. Ne pas être que dans l'indignation, que moi je trouve pas forcément être un sentiment de cinéma. C'est bien. Sur le plan social ou si on est une organisation humanitaire, etc. Mais le cinéma a besoin de violence, il a besoin que quelque chose se passe mal, il a besoin de montrer l'état d'une société, mais sans que ça soit au premier degré, sans que ça soit pour dire regardez, on est malade, on est souffrant, etc. Donc voilà, et en fait, sortant d'un film qui traitait entre guillemets du plus d'ailleurs de 81, c'est-à-dire Les Chiens, mon précédent film, ça traitait plus de disparition en 81 pendant les émeutes du pain que le printemps arabe, mais ça a été un peu présenté comme un film sur le printemps arabe, donc voilà, je voulais pas faire la même chose.
Ouais. Il y a un autre personnage assez étrange, c'est celui du méchant. Hein, que vous filmez comme si on était et au Maroc et en plein western de Sergio Leone et ce méchant là qui fait du mal, vous le filmez un peu comme les personnages pour qui vous avez de l'empathie, c'est-à-dire vous le filmez comme quelqu'un de très malheureux, profondément malheureux. D'ailleurs, j'ai jamais entendu autant de gens se plaindre de leur mal vie que dans votre film, Hicham Lasri. Ça revient comme un leitmotiv et c'est très bizarre. Ouais. Quand je vous vois, vous plutôt jovial, souriant.
Moi, j'aime l'idée de ne pas être dans l'antagonisme facile, c'est-à-dire les leçons qu'on peut tirer de notre histoire, récente et moins récente, c'est qu'on cherche toujours à accuser quelqu'un, on cherche toujours un coupable un peu trop vite et ça devient presque un bouc émissaire, c'est-à-dire toute la société participe à sa propre déchéance, c'est pas la faute des flics ou d'un gouvernement ou d'un je sais pas quoi, de quelque chose qui est là, mais tout le monde a quelque part participé, tout le monde a quelque part collaboré pour finir avec une société comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment présenter un personnage entre guillemets de méchant. Ouais, westernien, forcément, en hommage à la fois à la série Z et à la série B, au western et tout ça. Mais ce qui m'a intéressé, c'est en fait, c'est aussi quelqu'un qui vit un drame. On est jamais d'un bloc, en fait. C'est-à-dire, même le personnage principal, il se présente comme une victime. Il est agaçant. Il doit être agaçant. On a envie de le baffer pour le réveiller. Mais, en fait, il se présente comme une victime parce qu'il se complaît. Moi, je retrouve beaucoup ça dans les Marocains, dans les Arabes en général. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Le colonialisme, les gouvernements, etc., etc. Il se bouge pas, en fait. Je pense que on vit maintenant dans une société où les institutions, malheureusement, ils ont démontré leurs limites. On peut plus attendre, c'est plus que la faute du gouvernement ou de n'importe quelle institution. Je pense que c'est aussi la faute des citoyens arabes. Il faut qu'ils se bougent. C'est-à-dire, on attend toujours que ça se passe, que quelqu'un vient faire quelque chose pour nous au lieu d'inventer quelque chose. J'ai lu une statistique qui m'a beaucoup étonné. C'est récemment au Maroc, ils ont découvert qu'il y a 24 millions de personnes qui ont visité le site de l'emploi public au Maroc. 24 millions de personnes, c'est presque les deux tiers de la population. On imagine que tout le monde a juste envie d'avoir un job stable dans l'administration, etc. Avec tout ce que ça suggère, en fait, de stabiliser de l'emploi, mais aussi de manque parfois d'ambition, de sédentarisation. Et beaucoup de problèmes viennent du fait que les gens n'ont pas d'ambition propre, ne sont pas drivés par autre chose que par l'idée d'avoir un job, et basta. On ne va pas parler des sittings devant le Parlement pour avoir les jobs, enfin les emplois publics et tout ça. Et moi, ça vient de là, ça vient en fait d'idée que on présente en fait l'archétype au départ et après on le déconstruit pour dire en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est jamais genre noir et blanc, même si le film est en noir et blanc, mais c'est parce que ça joue sur l'idée aussi de noir et blanc, de ce manichéisme qu'on a essayé de nous vendre pendant très longtemps, nous contre les autres nous ont fait du tort, etc., etc., qui continue à fonctionner quand on regarde, je sais pas, des chaînes de télévision actuellement, on réalise que la peur fait toujours recette, en fait.
Depuis tout à l'heure, le grand critique de cinéma français vous écoute, c'est-à-dire Michel Simon, ça vous dit quelque chose ou vous suivez?
Oui, bien sûr.
Ouais. Alors, il va parler du cinéma français. Je voulais juste vous poser une dernière question, Hicham Lasri. Quel est le dernier film français qui vous a marqué? Autrement dit, est-ce que le cinéma français existe toujours au Maroc? Est-ce qu'on continue à aller voir des films français au Maroc?
Pas beaucoup malheureusement, c'est-à-dire mais c'est un schéma global, c'est-à-dire même le cinéma marocain n'existerait que parce qu'il y a des gros films un peu gras, comédie, etc. Une palme d'or ne sortira pas au Maroc. Donc, au-delà du cinéma français, on va parler du cinéma alternatif ou du cinéma différent. Bref, le cinéma qui n'est pas américain, il ne sort pas. Donc, c'est un phénomène, j'imagine, global, encore plus violent chez nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma aussi. Le dernier film qui m'a marqué, je ne sais pas, j'ai revu d'ailleurs Série Noire de Corneau.
Ouais.
Et avec autant de plaisir, et malheureusement, on ne fait plus ce genre de film. Voilà. Dans cette mouvance presque du conformiste, de ce cinéma des années 70 qui, moi, me fascine parce que c'est des histoires de personnages, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on a perdu actuellement beaucoup, c'est.
Patrick Devers, par exemple, c'est ça?
C'est ça. C'est dans Série Noire, c'est lui, en fait, qui fait le show. Donc, en fait, le problème actuellement, c'est qu'on a perdu cette qualité incroyable de cinéma de personnages et de parcours un peu, qui peuvent être erratiques au profit d'un cinéma de scénario. Ou de scénario, quand on parle scénario, on parlera de la dictature des scénarios, etc., un peu partout. Et c'est pas forcément très passionnant, en fait. Donc, c'est programmatique, c'est simplifié au maximum pour passer à la télé, etc., etc. Mais bon, il y a toujours des fulgurances.
Il boit du lait, Michel Simon. Merci, en tout cas, Hicham Lasri, d'être passé ce matin. Je rappelle la sortie aujourd'hui de votre film, The Sea is Behind. Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Michel Simon en positif et en négatif pour parler des films avec le recul nécessaire et en faisant la critique des critiques. Et pour commencer ce rendez-vous mensuel, cher Michel Simon, nous allons parler des deux films français de la rentrée, à savoir le film de Bonello, Nocturama, et le premier long-métrage de Houda Benyamina, Divine. Mais commençons par le film de Bonello. Pour Télérama, par exemple, Louis Guichard écrit « C'est un excellent film, la deuxième heure est foudroyante de tragique, d'intelligence et de beauté. » Éric Libio, lui, de L'Express, parle d'un film terriblement dépassé par la réalité, une fable assommante, dit-il. Et puis Éric Nohoff va plus loin, il déteste le film. Le Monde, lui, parle d'un chef-d'œuvre, Les Cahiers du cinéma d'un ratage. Et votre point de vue critique, Michel Simon?
Alors, positif, j'en ai parlé dans la revue, et négatif sur ce film. Pas du tout parce que nous n'aimons pas Bonello. Bonello est un esthète très talentueux, il l'a prouvé avec ses films. Mais dans ce film, il a fait un esthétisme sur un sujet qui demande peut-être un peu plus de sérieux, qui est le terrorisme international. Et puisqu'il s'agit d'un groupe de jeunes gens qui, on nous les présente pendant 45 minutes, tapotant leur téléphone portable, etc. On sent qu'ils préparent un mauvais coup. Ensuite, on voit des flammes qui dévastent Paris, donc Paris est à feu et à sang. Ensuite, ils se retrouvent dans un grand magasin où là, ils vont essayer des robes, ils vont prendre des Nespresso, ils discutent sans qu'on sache à aucun moment pourquoi ils ont fait tout cela. Et le GIGN arrive, les massacre tous, et on voit le massacre des jeunes gens sur lesquels on s'apitoie, évidemment. Ce sont tout de même des tueurs sans foi ni loi. On s'apitoie sur les cadavres de ces jeunes gens, mais on n'a jamais montré à aucun moment auparavant les massacres qu'ils ont accomplis eux-mêmes. Et finalement, il y a un jeune garçon qui se retourne vers nous, un des terroristes, et qui dit « aidez-nous ». Donc je pense que c'est un film tout de même extrêmement dangereux, parce qu'il y a une sorte de fascination pour cette jeunesse. La beauté, d'ailleurs, les chroniqueurs qui adorent ce film vantent la beauté, l'élégance, ils dansent, ils sont gracieux, etc. Ce sont tout de même des tueurs. Ce sont des tueurs.
Alors, il fallait que le cinéma les montre comme des méchants tueurs les accablant, ou non, c'était bien
tout.
Justement.
On aurait aimé un peu quelque chose sur le contexte, sur les motivations, pourquoi ils sont là. Donc je pense que ce film est assez irresponsable parce qu'on ne fait pas du Baudelaire et de l'esthétique décadente sur un des problèmes les plus graves qui nous concernent tous.
Ah, pour une fois, positif et sur la même longueur d'onde que les cahiers du cinéma. Enfin, quand je dis pour une fois, ça arrive souvent.
Je m'en réjouis.
Divine, le premier long métrage de Houda Benyamina, grand film de la rentrée cinéma français. Film salué partout, La Couve des Un Rock et de Télérama, et même Libé d'ailleurs. Le premier long métrage de Houda Benyamina dépeint avec une enthousiasmante insolence le parcours de trois filles entre amour et trafic. C'est Libé qui annonce ça, mais pour son critique, le jeune Luc Chessel, c'est un film qu'il faut saluer pour son impolitesse profonde, capable de gêner aux entournures les admirateurs comme les boudeurs. À France Culture, Antoine Guillouet a un avis plutôt partagé, et c'est Jean-Michel Frodon de Sled qui signe la première critique assassine de Divine. Il reconnaît que c'est un film roublard, mais il note que c'est un film saturé d'une énergie de clip survolté, entièrement soumis à la fascination pour la consommation et la domination, et qui est un film qui imite les vidéos de rappeurs qui surjouent la violence, l'arrogance et tous les excès de l'argent et de la force, et qui séduisent tant de jeunes gens dans le monde. Vous êtes plutôt pour ou contre ?
D'abord, le rapprochement des deux films paraît pertinent dans la mesure où ils ont une chose en commun, c'est la jeunesse. Ce sont deux portraits avec Nocturama de la jeunesse, d'une jeunesse d'aujourd'hui. C'est aux antipodes parce que dans le film de Benyamina, c'est l'instinct, c'est les pulsions, c'est la vivacité, c'est la vie qui déborde, à l'opposé de l'esthétisme raffiné évidemment de Bonello. Moi j'ai aimé Divine, c'est-à-dire que je pense qu'il n'en jetait plus, la cour est pleine à un moment on a envie de lui dire, parce qu'il y a tout y passe, c'est-à-dire tous les thèmes de la société sont traités en l'espace d'1h40, c'est-à-dire c'est un film qui déborde dans tous les sens du mot, mais en même temps j'aime ce débordement, et je voudrais d'ailleurs parler de ce cinéma des Français d'origine maghrébine, qui est tout de même, qui donne une extraordinaire vitalité au cinéma français. On a Abdelatif Kechiche, mais aussi Karim Dridi, dont on va voir bientôt Chouf, qui est un film sur la mafia marseillaise. Ce sont des films qui apportent, c'est un peu ce que Spike Lee avait apporté au cinéma américain il y a 25 ans, quand il faisait Do the Right Thing, les Afro-Américains. Sauf que ça n'a pas eu de suite en Amérique. Tandis qu'en France, il y a vraiment toute une génération de jeunes Français d'origine maghrébine, première, deuxième génération, peu importe, qui donne une extraordinaire vitalité. C'est la qualité, pour moi, de Divine. Je fais des réserves sur la fin, c'est-à-dire que quand les pompiers refusent d'intervenir, c'est un peu le GIGN de ce film, alors ils laissent mourir quelqu'un parce qu'ils n'ont pas reçu d'ordre pour intervenir. Je trouve ça un peu exagéré, franchement, exagéré. Mais le reste du film, je le trouve pétillant d'invention, et encore une fois, elle est bien meilleure que ses déclarations à la nuit des prix de Cannes, où j'ai trouvé son discours envahissant, mais elle filme mieux qu'elle ne parle.
Et pour terminer, Michel Simon, votre coup de cœur, on va terminer sur une note positive, même si vous avez été plutôt gentil avec Houda Benyamina. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Qu'est-ce qu'il y a à la une de positif ce mois-ci ?
Alors, la couverture de positif du numéro qui va être en vente à la fin du mois, c'est Poesia sin fin de Alexandre Jodorowsky. Alexandre Jodorowsky, évidemment, est un monstre sacré, surtout de la bande dessinée, plus encore que pour ses films mythiques comme El Topo, par exemple, ou La Montagne Magique. Mais moi, je l'aime plus aujourd'hui que quand il avait 45 ans. J'aime les vieillards. Alors, il a 87 ans. Il est dans une forme incroyable et il raconte sa vie. Et depuis qu'il raconte sa vie, c'est-à-dire auparavant, il avait réalisé un premier film, La Danse de la Réalité. Cette fois-ci, c'est La Poésie sans fin, c'est son adolescence. Le premier, c'est son enfance, avec un père stalinien. Ici, c'est son adolescence, où il fréquente les milieux littéraires. Alors, il y a toute la faune de Jodorowsky. Il y a des naines, il y a des manchots, il y a des cul-de-jatte, il y a le cercle des poètes chiliens, puisqu'il est chilien. Donc, on retrouve le Santiago de son enfance. On pense à Buñuel, on pense à un art visionnaire, à partir d'une réalité concrète. Et la réalité concrète, à mon avis, lui profite beaucoup, car c'est un film enchanteur.
Merci Michel Simon. Les petits matins de France Culture continuent avec un autre pas de deux, cette fois-ci exécuté par Émile Chaudet et François Angelier. À demain.